Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Es ist noch mein Zuhause, selbst wenn's ein Zufall ist. Und irgendwann fällt es auch auf mich zurück.
Bonjour. À moins de deux semaines des européennes, la France et l'Allemagne s'affichent unies dans la défense de la démocratie et du soutien à l'Ukraine. La visite d'État d'Emmanuel Macron outre-Rhin est la première depuis celle de Jacques Chirac en 2000. Depuis quelques années, les différends ne manquent pas entre le président Macron et le chancelier Scholz, qu'il s'agisse de l'énergie, du budget, de l'armement ou encore du commerce. Or, la convergence franco-allemande est plus que jamais nécessaire pour faire avancer les politiques européennes et préserver le projet d'origine, comme l'explique le chercheur Alberto Alemano.
Il y a plein de dossiers où la France et l'Allemagne ont des visions différentes. Le discours de la Sorbonne les a soulignés. Et évidemment, la France reste un peu le seul pays qui a une vision plus courageuse pour l'Europe, vers l'élargissement par exemple, et vers la réforme des règles du jeu. L'Allemagne sur l'élargissement essaye de suivre, mais lorsqu'il s'agit des réformes, elle est beaucoup plus prudente. Et donc évidemment, sans un accord entre la France et l'Allemagne, c'est un peu un prérequis pour tout avancer. Et c'est ça qu'il faut essayer d'identifier avant et tout de suite après les élections européennes, avoir cette base commune pour avoir ensuite d'autres pays importants qui ont du poids, comme l'Espagne et l'Italie, de suivre et faire face à des nouveaux défis, comme des pays qui aujourd'hui n'est pas simplement l'Hongrie, mais également le Pays-Bas avec un nouveau gouvernement qui pourra rendre très difficile les avancées de l'intégration européenne.
C'est l'autre enjeu, en effet, souligné par le président français, le danger de la montée de l'extrême droite, face auquel Emmanuel Macron a appelé à défendre la démocratie. En Allemagne, les sondages prédisent une très forte hausse de l'AFD aux européennes, hausse qui risque d'avoir des conséquences, y compris pour le gouvernement.
La montée en puissance de l'AFD, deuxième parti du pays pour la première fois dans l'histoire, obligera cet accord des coalitions d'être revu. L'équilibre interne entre les Verts, qui probablement ne feront pas bien, et les libéraux va également probablement changer. Mais quelque chose de similaire va se produire dans d'autres pays, en Italie par exemple, où Forza Italia, la force modératrice de M. Berlusconi, va probablement obtenir plus de voix que la Ligue de Matteo Salvini. Et je n'exclus pas que d'autres effets de ce type puisse se produire, ce qui finalement est assez sain, je pense, comme processus, que les élections européennes puissent représenter une occasion pour mettre à plat les priorités des différents États, mais sans doute là où ils auront plus d'effet sera sur la relation franco-allemande suite à cette montée en puissance du AfD qui va être choquant, parce que les Allemands continuent à être un peu dans une situation de déni par rapport à cette réalité. Donc jusqu'au moment où l'AFD aura obtenu un nombre si important de voix, je pense que les Allemands ne seront pas entièrement conscients du fait que les vents ont changé et que donc il faudra adopter toute une série de mesures pour intégrer ou ne pas intégrer cette force politique. Et lorsque tu as un nombre si important de citoyens qui votent, qui soutient l'AFD, donc c'est une force politique qui doit être invitée à la table et qui va jouer un rôle dans les différents moments des décisions politiques.
Alberto Alemano, professeur titulaire de la chaire Jean Monnet en droit et politique européenne.
Unsere Welt verändert sich und das macht vielen Menschen Sorgen. Jetzt ist die Zeit, die Probleme unserer Zeit zu lösen.
Toujours en Allemagne, le climat de la campagne électorale n'est pas des plus détendus. L'attaque contre un candidat qui collait des affiches début mai a laissé des traces. Matthias Ecke, eurodéputé social-démocrate, a été battu par trois jeunes hommes, dont l'un a revendiqué son appartenance à l'extrême droite. Depuis, d'autres candidats ont subi des agressions verbales ou physiques. Chez les Verts, les militants s'organisent pour finir cette campagne le plus sereinement possible, alors que le parti, en recul dans les sondages, est la cible numéro un de l'AFD. C'est un reportage à Berlin de Salomé Hénon-Cohen.
Ce matin-là, Laura Kroszewski, candidate à la 27e position sur la liste des Verts aux européennes, est entourée de deux militants du parti, Madeleine et Florian. Ils ont enfourché leur vélo et partent accrocher les affiches de campagne pour les européennes.
Nous avons une application pour la campagne où tous les militants notent sur un plan les affiches qu'ils ont placardées. Et quand on voit une affiche endommagée dans la rue, on peut la trouver et la signaler. Ici, par exemple, il devrait y en avoir une, on peut cliquer et dire qu'elle n'y est plus.
Et le cas de cette affiche n'est pas isolé. Le climat politique s'est largement détérioré en Allemagne ces dernières semaines. Le point d'orgue, la violente agression physique de l'eurodéputé social-démocrate Matthias Ecke, à Dresde, dans le Land de Saxe, un bastion du parti AfD et de l'extrême droite. Depuis, quatre agresseurs ont été identifiés, dont l'un a revendiqué cette appartenance idéologique. Alors que Laura, Madeleine et Florian remettaient en place une affiche arrachée, un homme d'une quarantaine d'années les interpelle. « C'est toujours un plaisir de les enlever », dit-il, expliquant que l'écologie ne l'intéresse pas et qu'il trouve cela pénible de voir ces affiches tous les matins. La réponse des militants sur le bon déroulement du jeu démocratique ne semble pas le convaincre. Laura est échaudée.
« On pourrait porter plainte, bien sûr, mais ça ne le ferait pas changer d'avis. Vraiment, je n'avais encore jamais vu ça, que quelqu'un admette lui-même qu'il a arraché une affiche. »
Malgré cette mésaventure, la candidate temporise. Elle est consciente d'être protégée par le fait de militer à Berlin. Car la plupart des incidents ont lieu dans des territoires ruraux. En un an seulement, ces attaques ont augmenté de près de 50%, atteignant un record de 3357 atteintes physiques en 2023. Et selon cette étude de Statista, ce sont les Verts qui sont les plus visés, 1219 représentants du parti ayant été visés l'an dernier. Corinna Balco aussi est membre du Parti des Verts et candidate à la 29e position sur la liste écologiste aux européennes. Elle sort d'un débat houleux auquel la presse n'a pas été conviée. Face à elle, les représentants de tous les grands partis, dont l'AFD. Elle regrette que la violence prenne de l'ampleur, même à Berlin. Et rappelle qu'il y a une dizaine de jours, c'est l'ancienne maire de la capitale Franziska Giffey, aujourd'hui en charge de l'économie à la mairie de Berlin, qui a été attaquée.
Le fait qu'une personnalité connue soit attaquée, on aurait pu croire que ça ferait changer les choses, mais la violence continue à toucher d'autres personnes et ça ne bouge pas autant que je l'aurais souhaité. Enfin, quand même, souvenons-nous qu'un homme politique de la CDU est mort sur le sol allemand il y a quelques années et malgré cela, cette violence n'est toujours pas vraiment prise au sérieux.
En effet, en 2019, Walter Lübcke, membre de la CDU et élu local de la ville de Kassel, est assassiné chez lui par un militant néo-nazi. Il était harcelé depuis des années par les milieux d'extrême droite, à cause notamment de ses positions en faveur de l'accueil des réfugiés en Allemagne, sur la même ligne qu'Angela Merkel. Mais malgré cet assassinat tragique, les violences en politique ne cessent de croître.
Je n'ai pas entendu dire que des militants verts tabassaient des partisans de l'AFD, alors que moi, j'ai peur et je ne trouve pas ça normal du tout.
Pour faire face ensemble à ces tensions, Laura, Florian et Madeleine aident également les militants d'autres villes du pays. C'est le cas de la ville de Gotha, 46 000 habitants, en Thuringe. Elle a un partenariat avec Berlin. Et les militants s'y déplacent régulièrement pour ne pas laisser les membres des Verts sur place, souvent retraités et peu nombreux, seuls, dans cette région, bastion de l'AFD. Mais c'est dans une autre ville plus proche de Berlin que Laura a eu sa pire expérience avec des militants de l'AFD. Lors de l'élection européenne de 2019, elle s'était rendue à Cottbus, dans le Brandebourg, pour tenir un stand. N'ayant pas trouvé de nourrice, elle avait amené son fils, alors encore bébé, avec elle.
Mir selber ist es wirklich nur passiert, als ich zum Beispiel mal.
À Cottbus, je faisais campagne avec mon bébé que je portais dans une écharpe. On ne le voyait même pas. Des gens ont osé me dire des choses comme « Quel genre de mère es-tu ? Comment peux-tu éduquer ton enfant pour qu'il trahisse son pays ? Et comment peux-tu trahir ton pays ?» C'était des militants de l'AFD. Après ça, je ne l'ai plus emmené.
Mais parfois, comme ce jour-là, les échanges avec les passants sont plutôt cordiaux. Un homme s'approche. À leur plus grande surprise, il vient sans aigreur, juste pour leur dire qu'en dehors de ses sympathies politiques, il trouve cela vraiment bien que des gens comme eux fassent ce qu'ils font. Ce jour-là, les trois militants auront remis une quinzaine d'affiches en place.
En France, le Parlement commence aujourd'hui à débattre de la loi pour une aide à mourir. Le Comité consultatif national d'éthique s'était prononcé il y a 2 ans en faveur d'une discussion sur la légalisation du suicide assisté, en posant comme condition le développement parallèle des soins palliatifs et l'accès à la sédation profonde. Au niveau européen, ce délicat sujet de la fin de vie laisse les pays très divisés. C'est l'œil européen ce lundi de Franceline Beretti.
Plusieurs pays ont légalisé l'euthanasie en Europe, mais ils sont minoritaires. On cite souvent la Suisse et la Belgique, probablement parce que des Français souhaitant une assistance à mourir se rendent dans ces pays frontaliers et francophones. Mais il y a aussi l'Espagne, le Portugal, le Luxembourg et les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui sont les premiers à avoir légalisé l'euthanasie active. En Belgique, on peut demander l'euthanasie depuis 2002, sous certaines conditions.
Il faut que le patient soit conscient, qu'il s'agisse d'une demande volontaire, réfléchie et répétée, que la souffrance physique ou psychique soit inapaisable et que la situation médicale soit sans issue.
La Belgique se considère en avance sur ces questions, c'est-à-dire du côté du progrès, du sens de l'histoire. Elle autorise même l'euthanasie des mineurs depuis 2014. En 10 ans, 5 personnes l'ont obtenue. Cela pose de grandes questions philosophiques. À partir de quel âge peut-on parler de discernement chez un enfant ou un adolescent? Et jusqu'où va-t-on autoriser l'euthanasie? Le président des mutualités chrétiennes flamandes a mis la classe politique belge très mal à l'aise en avril dernier. Luc Van Gorp proposait de réfléchir au suicide assisté des personnes âgées, même si elles ne sont pas malades, comme l'explique la RTBF.
Ce débat doit être une priorité politique, selon le président des mutualités chrétiennes flamandes. Étant donné l'accélération rapide du vieillissement de la population, il estime qu'il faut pouvoir discuter d'euthanasie de personnes qui ne sont pas atteintes de maladies incurables. Pour Luc Van Gorp, les personnes âgées qui jugent avoir vécu une existence accomplie devraient donc pouvoir demander de mettre un terme à leur vie.
Même si les Belges sont parmi les plus libéraux d'Europe sur ces questions sociétales, ces déclarations ont fait polémique. Certains médias se sont demandé si on allait commencer à suicider des vieux. Mais d'autres trouvent ça normal d'en débattre, comme cet homme interrogé par RTL à Louvain.
Je trouve ça génial. J'entends tellement de gens qui en ont assez de la vie et qui attendent et attendent. Ça peut durer longtemps et ça coûte cher. Je ne devrais pas dire ça, mais c'est vrai. On ne les aide pas en les laissant vivre, et avec cet argent dépensé, on pourrait aider des jeunes.
On touche là à des différences culturelles profondes. En Flandre, ces propos sont perçus comme une opinion comme une autre, avec laquelle on peut être en accord ou pas. Mais pour beaucoup d'Européens, ils sont extrêmement choquants et inaudibles. Si des personnes âgées qui ne sont pas malades ont envie de mourir, c'est que la société va particulièrement mal. Alors y ajouter des arguments économiques, c'est insupportable. Car dans 9 pays de l'Union européenne, l'euthanasie est considérée comme un crime. En Bulgarie, à Malte, ou encore en Pologne ou en Irlande, vous risquez de la prison si vous aidez une personne à mourir. Et entre ces deux positions, au sein de l'Union européenne, 13 pays autorisent l'euthanasie passive. Mais cette marge d'appréciation est souvent l'objet de vives polémiques, comme en Italie, où la Cour constitutionnelle a ouvert en 2019 la possibilité de demander le suicide médicalement assisté.
Le gouvernement fait de la politique sur le dos des malades en phase terminale. L'accusation du gouverneur d'Émilie-Romagne et président du Parti démocrate, Stefano Bonaccini, est très lourde. La confrontation a éclaté après la décision du gouvernement et du ministre de la Santé d'introduire un recours au tribunal administratif contre les résolutions du Conseil régional qui a décidé de mettre en œuvre le suicide médicalement assisté.
Le gouvernement reproche à la région de précipiter les choses et de ne pas respecter exactement les exigences de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la vérification de l'irréversibilité des maladies. La région répond au gouvernement qu'il n'a qu'à préparer une loi cadre. Je vous épargne les détails juridiques, c'est compliqué. Et ce cas italien prouve aussi qu'entre la décision de justice et son application, de nombreux débats sont encore possibles.
Moins de 2% de la population irlandaise parle l'irlandais de façon quotidienne. L'anglais, héritage colonial, domine, mais la langue de la Vertérine est de plus en plus à la mode. Dans le domaine culturel en particulier, la chanson Peacock du groupe celtique Imlay a été choisie comme chanson-titre de la première série de la maison de production du couple Obama, Bodkin, sur Netflix. Reportage à Dublin de Clémence Pénard.
How's it going, people? Welcome to the Radio na Liffa. We are Imlay and we're rehearsing our song Sláinte, which is coming soon. Keep a lookout.
Radio na Liffa, station de radio indépendante à Dublin. Sur les ondes, pas un mot d'anglais. Ici, on vibre en irlandais. Comme James Shannon, cravate et bague au doigt, ce jeune rappeur dublinois n'a pas peur de mélanger les styles et se réjouit que l'irlandais soit devenu branché.
C'est fou de voir l'irlandais émerger de cette façon et de voir que c'est largement accepté. C'est presque cool maintenant de parler irlandais. Je suppose que de la part des gouvernements que nous avons eus, il y a eu un tel manque de volonté pour la langue et la culture irlandaise. Si les gens haut placés ne défendent pas notre langue, alors le peuple doit le faire. C'est ça que je ressens.
James Shannon performe avec Kian McCorrig, musicien et producteur. Kian a fondé Imlay, un collectif d'artistes qui mélange électro, R&B et leur langue maternelle.
J'ai joué avec beaucoup de groupes où on chantait en anglais et c'était super. Mais j'ai remarqué quand je jouais de la musique à l'étranger que nous n'avions pas ce quelque chose qui puisse nous différencier des autres. Il y a énormément de chansons brillantes en Irlande. irlandais, mais c'est souvent des chants traditionnels avec des artistes venant de l'ouest de l'Irlande. Et c'est charmant, mais je me suis dit que ce serait génial de créer quelque chose de nouveau. Et quand tu chantes en irlandais, tu as l'impression d'innover, de faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant, et tu ressens une sorte de liberté.
Feel free, or you feel freedom doing it like that.
Sur la scène mondiale, l'Irlandais aiderait les artistes à se démarquer. C'est le cas du trio nord-irlandais Kneecap qui rappe principalement en irlandais. Ces dernières années, le groupe a connu une ascension fulgurante avec des tournées à guichets fermés aux États-Unis et au Canada. Leur biopic éponyme avec Michael Fassbender raconte la montée en puissance du trio avec le mouvement des droits de la langue irlandaise en Irlande du Nord. Le documentaire a d'ailleurs remporté le prix très convoité du public lors du festival de Sundance. Deux des Kneecap ont appris la langue irlandaise sur les bancs de l'école à Belfast. La dramaturge Kira Nye, elle, a appris la langue par elle-même. Sa pièce de théâtre Grinder, Cider et Cher est une pièce sur les applications de rencontre, le cidre et tout ce qui s'ensuit. Mais ce qu'il y a de plus moderne finalement, c'est qu'elle est entièrement interprétée en irlandais. Pour Kira, la colonisation britannique a laissé des traces, mais la langue irlandaise fait partie intégrante d'une sorte de renaissance culturelle.
C'est vraiment cool de voir les Irlandais être fiers de leur propre culture. J'ai des amis qui ont grandi en parlant irlandais qui disent qu'ils étaient un peu vus comme des marginaux. Pour beaucoup de gens, il y avait aussi une sorte de honte post-coloniale à propos de notre langue. On était inférieurs et les gens voulaient se sentir normaux. Et ça passait par le fait de parler anglais. Mais maintenant que l'Irlande est un pays prospère et qu'il y a davantage de multiculturalisme aussi, je pense qu'on réalise que notre propre culture a de la valeur. Je crois que nous cherchons encore à savoir qui nous sommes en tant que peuple irlandais. Et j'espère vraiment que la langue fera partie de ce processus de guérison.
Aux Oscars, Cillian Murphy, lauréat du meilleur acteur, a fini son discours par « Gaurav Maggat, merci beaucoup ». Un extrait de l'étoile montante Paul Mescal s'exprimant en irlandais sur la télévision irlandaise TG Care lors des BAFTA a lui été visionné plus de 3 millions de fois. Des Oscars aux BAFTA, donc en passant, on l'a dit, par le festival de Sundance, l'irlandais est partout. Alan Eslement, directeur général de TG Care, compte bien surfer sur cette vague.
Le gouvernement irlandais semble avoir pris pour modèle le gouvernement français, très centralisé et monolingue. Depuis un an et demi, il y a beaucoup de scandales au sein de la chaîne de télé en langue anglaise ici, la RTE, et il y a une enquête sur ce que doit être son financement. Nous pensons que la RTE doit être forte, mais nous pensons aussi qu'historiquement, TG Care a été sous-financé. Donc, quel que soit le montant que le gouvernement allouera à la RTE, nous voulons pour nous une subvention égale à 50% de cette somme.
Et au-delà des arts et des médias, le renouveau de la langue irlandaise passe évidemment par l'éducation. L'irlandais est obligatoire dans les écoles financées par l'État. On les appelle les Gael Schools. Tarsila, originaire de Sao Paulo, a décidé de mettre son fils Otto, 9 ans, dans l'une de ces Gael Schools.
Lui apprendre l'irlandais, c'est quelque chose que nous ne pouvions pas lui offrir, car nous sommes tous les deux originaires du Brésil. Donc on a pensé que c'était une bonne idée de lui permettre de vivre cette expérience et d'avoir un lien avec le pays dans lequel il est né. Chez nous, oui, on parle un peu toutes les langues aujourd'hui. Et bien sûr, le portugais, c'est comme notre langue secrète. À chaque fois qu'Otto ne veut pas que les autres sachent de quoi nous parlons, il le dit en portugais.
Ces Gael Schools alternatives ont été introduites dans les années 70. Malheureusement, l'irlandais a encore mauvaise réputation. L'apprendre serait une corvée. D'après de nombreux Irlandais, la langue serait aussi très mal enseignée. Il reste donc encore beaucoup de chemin pour maintenir vivante la langue irlandaise.
Accent d'Europe était réalisé par Françoise Grelot. On se retrouve demain, même heure, même fréquence. Et en attendant, restez à l'écoute. L'info continue sur RFI.